Fréquence Europe, l'émission européenne des radios judaïcas, réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg.
Bonjour à tous, bienvenue pour 15 minutes d'émission où l'on parle d'Europe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Madame Birte Wassenberg. Bonjour Madame Wassenberg.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur en histoire contemporaine des relations internationales à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg, spécialiste en études européennes de l'Allemagne, des relations franco-allemandes et des questions qui touchent à la coopération transfrontalière. Vous avez co-rédigé avec deux autres professeurs de l'Université de Strasbourg un article intitulé « La frontière franco-allemande au temps du Covid-19, la fin d'un espace commun ?» que l'on peut retrouver sur Internet dans la revue theconversation.com. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cet entretien. J'aurais d'abord une première question d'ordre pratique qui ne touche pas directement au sujet Europe, mais plus à votre métier de professeur d'université. Comment s'organise votre travail dans cette période de confinement ?
Alors, on était, comme tout le monde, très surprise, bouleversée par cette crise sanitaire. Pour l'université, c'était, je dirais, un apprentissage progressif de passer de plus en plus en télétravail aussi. Donc, j'ai vu mes étudiants online. On a des outils informatiques avec Zoom ou avec un outil qui est développé par l'Université de Strasbourg, qui nous permettent à la fois d'être en contact visuel avec les étudiants, mais aussi de faire des réunions entre collègues, et surtout pour moi qui a des networks internationaux, de faire vraiment des réunions qui vont jusqu'au Canada, ça marche. Mais il faut quand même dire qu'il y a aussi des difficultés, notamment ce qui concerne les examens, les stages. Mes étudiants en master ont tous plus ou moins eu leur stage en présentiel suspendu, arrêté. Il y en a qui se trouvaient à l'étranger, qui ne pouvaient plus rentrer en France, mais qui ne pouvaient plus continuer leur stage. Et alors, il y en a certains qui continuent leur stage en télétravail, mais d'autres, vous devez trouver des solutions pour qu'ils fassent un mémoire à la place, pour valider leur année. On a décidé de prolonger l'année universitaire pour qu'ils puissent recommencer un autre stage en septembre, mais vous pouvez vous imaginer qu'en relations internationales, c'est extrêmement bouleversant pour les étudiants. Ils sont très déçus parce que tout l'intérêt de ce master relations internationales, c'est évidemment de faire un stage dans une ambassade, dans une organisation européenne, et tout cela, maintenant, ce n'est plus possible. Voilà.
Alors, revenons sur notre sujet Europe. Alors, la libre circulation, notamment des personnes, est aujourd'hui indissociable de la construction européenne. Dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on appelle Eurobaromètre, la libre circulation est citée comme l'apport le plus important de l'Union européenne, devant même la paix. Pourtant, d'un autre côté, face à des attaques terroristes ou aujourd'hui face à une épidémie, la fermeture des frontières est censée rassurer les opinions. Comment expliquez-vous cette contradiction entre cette ouverture des frontières qui est vue bénéfiquement et en même temps, dès qu'on les ferme, ça rassure aussi l'opinion publique?
Alors, cette contradiction, figurez-vous que je l'ai remarquée déjà bien avant. Vous avez parlé des attaques terroristes, mais il y avait aussi la crise migratoire pour l'Allemagne. Tout cela s'était passé en 2015, et donc on a déjà fait une analyse de ce réflexe de fermeture des frontières pour rassurer la population. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas tous les pays qui réagissent de la même manière. La France avait proclamé en 2015 un état d'urgence, donc ils avaient fermé vraiment les frontières pendant longtemps, suspendu les accords de Schengen de manière quasiment permanente, jusqu'à maintenant d'ailleurs, alors qu'il y a d'autres pays qui étaient aussi touchés par le terrorisme ou par la migration, qui n'ont fait comme par exemple l'Allemagne, mais aussi la Belgique, qui ont fait des fermetures de frontières non permanente pour un certain temps. Et ça s'est permis dans les accords de Schengen. Alors on a beaucoup réfléchi sur cette question, mais pourquoi on ferme les frontières, surtout que si vous avez vu Strasbourg et Kiel, ce n'était pas du tout efficace parce qu'à la crise de 2015, contrairement à aujourd'hui, il y avait la fermeture du pont de l'Europe pour les voitures, mais à côté, le pont pour les piétons ou le pont pour le train ou pour le tram était resté ouvert. Et donc, c'était paradoxal parce que ça ne pouvait avoir aucune efficacité. Si vous aviez un terroriste ou un migrant, il pouvait très bien se promener sur le pont des piétons alors que l'autre pont était contrôlé. Et je pense que l'explication, c'est que Dans ces crises-là, en fait, c'est l'État, l'État-nation, qui reprend la main sur les politiques frontalières. Et leurs réponses, ce sont des réponses très classiques et anciennes, c'est-à-dire on rassure la population par la fermeture des frontières. On met des militaires, on dit aux populations, voilà, on vous protège parce que personne de méchant ne peut rentrer. C'est un réflexe très ancien, je suis historienne, mais qui aujourd'hui, dans notre temps, n'est plus du tout efficace puisque nous sommes dans une Europe ouverte, dans une Europe qui caractérisée, comme vous l'avez dit, par la mobilité et où ces mesures-là sont même, je dirais, contre-productives parce qu'ils vont suggérer, par exemple, entre le français où la frontière est fermée vers l'Allemagne, que le méchant vient de l'extérieur, donc que le méchant vient de l'Allemagne, et de là à dire que le méchant est allemand, il n'y a pas beaucoup d'étapes à franchir, et c'est très dangereux, et donc ça s'explique par la fonction de sécurité que peut procurer une frontière, qui peut être une vraie fonction, mais qui, comme politique de réponse à une crise européenne, me semble tout à fait inefficace.
C'est ce que vous notez dans votre article, le retour au contrôle aux frontières, notamment entre la France et l'Allemagne, notamment autour de Kiel, a été fait sans aucune concertation avec les autorités régionales. Alors vous l'expliquez parce que c'est une compétence plutôt étatique, mais finalement, comment vous expliquez que cela se soit passé sans aucune concertation avec les autorités locales qui subissent, elles, la conséquence de tout ça?
Alors, ça aussi, historiquement, c'est pas du tout la première fois que ça arrive. Donc, comme dit, c'était déjà arrivé pour la crise migratoire, c'est arrivé pour la crise du terrorisme, et c'était même arrivé bien avant, parce que je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, d'un collègue suisse qui s'était plaint qu'en cas d'accident nucléaire, dans les stations nucléaires qui longent le Rhin, les autorités, ce qui était prévu dans les textes, c'est qu'on prévient d'abord Berlin, Paris, et Berne, et pas les villes frontalières de l'accident nucléaire. Donc ça paraît absurde, mais c'était exactement cette problématique. Et la raison pour cela, c'est que la sécurité nationale, c'est une compétence des États. La sécurité, ou aussi au moment où il est menacé, revient tout à fait dans les compétences de l'État. Alors pour la France, même de Paris, pour l'Allemagne, on voit dans la crise sanitaire qu'il y a quand même aussi encore des compétences des Länder, donc pour un État fédéral c'est un petit peu différent, mais même en fin de compte c'est la même chose, c'est l'État qui reprend la main. Et donc les autorités régionales n'ont pas de compétences, mais ce n'est pas la première fois dans la coopération transfrontalière où ça arrive. Donc moi je pense qu'il y a à la fois un problème de compétences, mais il y a aussi un problème d'inactivité des autorités régionales. Je ne comprends pas, et je les invite d'ailleurs, pourquoi les autorités régionales ne maintiennent pas ou n'utilisent pas les outils qu'on a construits ensemble ici dans les régions frontalières. Il y a des conférences, il y a des groupes de travail, d'ailleurs même sur la santé, qui existent. Pourquoi ils ne les mobilisent pas pour faire des propositions aux États comment on pourrait coordonner les réponses nationales et les faire accompagner par des mesures au niveau régional. Et il y aura tout à fait, je suis sûre que les deux niveaux, national et régional, pourraient bénéficier d'une concertation, mais celle-là, elle n'existe malheureusement pas encore, et c'est bien dommage.
Dans votre article, vous notez notamment la difficulté que cela a posé aussi pour les travailleurs frontaliers, parce que quand l'Allemagne a décidé de réintroduire des contrôles très rapidement, les travailleurs frontaliers, eux, certains se sont vus refuser le travail en Allemagne, ne pouvaient même pas y retourner, d'autres ont eu besoin de papiers complémentaires nécessités par la France, par l'Allemagne, etc. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, cette crise du coronavirus, sur la question des travailleurs frontaliers, mais aussi sur plus largement sur la construction de ce projet européen, puisque les frontaliers profitent de cet espace plus grand, mais là, dès qu'il y a une crise, on les voit aussi comme un danger.
Alors pour les frontaliers, je pense qu'on peut faire une analyse qui pourrait presque être un tout petit peu optimiste, parce que si vous avez observé à la frontière entre l'Allemagne, par exemple, et la Pologne ou la Tchéquie, à un moment donné, les autorités de l'Est étaient beaucoup plus strictes encore que l'Allemagne vis-à-vis de la France. C'est-à-dire, ils ont voulu laisser rentrer aucun travailleur frontalier. Et ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas possible. J'en ai parlé avec mon collègue à la mission opérationnelle transfrontalière, qui m'a fait signaler qu'il y avait certaines régions frontalières où le système de santé de l'autre côté de la frontière ne pouvait même pas fonctionner sans l'apport des travailleurs frontaliers, parce que ça concerne aussi des travailleurs frontaliers comme des infirmiers, des
Notamment le Luxembourg.
personnels. Ouais, tout à fait. Et donc, on voit, alors, les États étaient obligés, ils ne pouvaient même, ça montre qu'ils ne pouvaient pas complètement fermer les frontières, donc ils devaient rendre possible le travail frontalier, mais avec, bien sûr, des obstacles à franchir désormais, c'est-à-dire plein de papiers à produire. Là, par contre, je pense qu'il y aura justement une possibilité pour les autorités régionales qui pourraient trouver des solutions pour faciliter ces papiers. Par exemple, mon garagiste ici à Kiel, qui est alsacien, m'a montré qu'il devait, à un moment donné, au début, montrer tous les jours, quatre papiers, deux allemands et deux français, réétablis tous les jours. Après une semaine ou deux semaines, il avait des papiers un peu plus permanents, hein, mais pas au-delà d'une semaine, hein. Mais moi, je me dis, par exemple, là, on pourrait très bien imaginer que les autorités transfrontalières procurent un seul papier, hein, qui soit franco-allemand et qui leur permette d'avoir beaucoup plus de facilité à franchir la frontière. Alors, pour les frontaliers, ça marche. Mais là où c'est beaucoup plus tragique, c'est pour la population frontalière, qui peut-être n'est pas frontalière, mais qui a, par exemple, un couple qui maintenant séparé par la frontière. C'était au lac de Constance, entre la Suisse et l'Allemagne, les couples transfrontaliers qui ne peuvent plus se voir. Les familles, moi-même, je suis concernée, mon fils, il est du côté français, je ne peux plus le voir parce que je vis du côté allemand. Et ça, c'est pour ces liens qui ne sont pas les liens professionnels, mais les liens personnels, il n'y a aucune solution. Tout le monde les a oubliés, disons, là. Tout progressivement, maintenant, on s'en rend compte et on veut faciliter pour ces types de personnes aussi la traversée de la frontière. Mais ça, c'est un vrai traumatisme et ça remet en cause l'Europe et l'idée même de l'Europe qu'on a une libre circulation. Parce que vous, avec cette crise, vous pouvez tout d'un coup vous trouver dans un état et paf, il y a la crise, il y a la fermeture de frontières et vous ne pouviez plus retourner là où vous habitez, où vous ne pouviez plus voir votre conjoint, où vous ne pourriez plus voir vos enfants et a beaucoup plus d'impact que pour un travailleur frontalier où la relation n'est que professionnelle parce que vous avez beaucoup plus de sentiments qui sont en jeu et ce que je crains beaucoup, que ces personnes vont devenir plus eurosceptiques et qu'on va voir le résultat dans 4 ans dans les prochaines élections européennes où on va encore avoir la montée des partis populistes ou eurosceptiques dans les élections européennes.
Il y a un élément positif, ça a été quand même la prise en charge de patients atteints du Covid, notamment sur les territoires frontaliers entre les États. Mais là, on a vu que les autorités, cette fois-ci régionales et locales, notamment les conseils départementaux, les régions, qui ont favorisé ça et pas cette fois-ci l'État. Alors, on voit que concrètement, ça c'est quand même au niveau transfrontalier que ça s'est fait, pas trop au niveau national cette fois-ci.
Alors, moi, j'ai une évaluation de cela qui est un peu plus critique parce que il y a le facteur temps qui a joué dans cette prise en charge. Ça s'est fait, mais ça a pris, à mon sens, beaucoup trop de temps. C'est-à-dire, on a quand même, pendant plus d'une semaine, vu des images en Strasbourg de patients qui étaient transportés avec des hélicoptères dans d'autres régions, je ne sais pas, en Bretagne où il y avait encore des capacités dans les hôpitaux, ou alors avec un train à Marseille qui est à 1 000 km de Strasbourg, avant que cette prise en charge par les voisins se mette en place. Et cette semaine-là, pour moi, c'est trop. C'est-à-dire, il faudrait à l'avenir trouver des mécanismes d'urgence qui permettent tout de suite à cette prise en charge transfrontalière de patients d'un côté et de l'autre de la frontière à jouer. Il y a un hôpital transfrontalier qui se trouve en Sardaigne, entre la France et l'Espagne. Et il est du côté espagnol. Et j'ai lu, je me suis intéressée, comme je me suis dit, comment ça s'est passé dans cette frontière. Il se trouve que dans cet hôpital qui est transfrontalier, finalement, dans la crise, Ben, la plupart des patients sont espagnols parce qu'ils se trouvent sur le sol espagnol, alors que c'est un hôpital binational. Et là, il y a vraiment du travail à faire pour les relations transfrontalières. La coopération marche bien en temps de paix, en temps de non-crise, mais en temps de crise, il n'y a pas assez de mécanismes automatiques. Et je ne suis pas certaine que c'est sans doute les autorités régionales, surtout du côté allemand, c'est les Länder qui ont montré leur volonté de prendre des patients. Mais ce n'est pas les instances de gouvernance transfrontalière qui ont réagi. Et je pense qu'on voit, mais c'est bien parce qu'on voit le problème qui existe encore. Ça s'est fait finalement, mais ça, à mon sens, ça s'est fait trop tard.
Alors, j'ai une question aussi qui, vu que vous connaissez quand même bien le côté franco-allemand et le côté, vous faites quand même un comparatif entre les deux pays. Il est peut-être encore un peu tôt pour faire une analyse précise des stratégies de confinement entre les États membres pour gérer le coronavirus, mais pourquoi finalement l'Allemagne semble-t-elle mieux gérer l'épidémie que la France? Pour vous montre que pourquoi l'Allemagne semble mieux gérer cette crise?
Alors, je suis ça vraiment de très près, des deux côtés de la frontière, comment ça marche. Je pense qu'il faut quand même être honnête, c'est-à-dire pour l'Allemagne, il y a quelque part aussi un facteur de chance. L'Allemagne a vraiment eu de la chance, vous le voyez aussi dans toutes les analyses à la télévision. Enfin, la chance, c'est que l'Allemagne n'était touchée qu'après l'Italie et la France, de manière, et il y avait peu de clusters. Il y en avait un en Nordrhein-Westfalen, il y en avait un en Bavière, et on a réagi par contre après très vite pour les contenir. Et ça a bien marché, c'était une chance. Après, il y a aussi la différence, je pense, qu'il faut la chercher dans les systèmes étatiques d'un côté et de l'autre. La France est un État centralisé. Et donc la France, elle réagit à partir de Paris. Et ça peut être efficace parce qu'au moment, par exemple, où il y avait le confinement, l'Allemagne a pris beaucoup plus de temps que la France de confiner totalement. Hein, ça a mis une semaine, les Länder, chaque Land faisait un peu n'importe quoi. Il y avait un Land qui laissait promener les personnes à deux, un autre à cinq, un autre faisait pas de confinement du tout, un autre faisait de nouveau du confinement total. Donc, il y avait, pendant une semaine, il y avait un peu des variations. Et ensuite, il y a aussi une réponse nationale. Mais du côté français, c'était radical. Macron a dit on est en guerre et tout était fermé. Mais ensuite, par la suite de la crise, je pense que le système fédéral allemand a des avantages parce qu'il permet plus de prise en compte des différences régionales pour trouver des réponses à la crise sanitaire. Et comme le virus n'est pas présent pareil dans les régions, la France aussi s'en est rendu compte, cette décentralisation permet de mieux cibler les mesures par rapport à la nécessité du territoire. C'est un peu ce qu'on dit tout le temps aussi dans les relations transfrontalières. On dit toujours ça ne sert à rien de réagir à partir des capitales, il faut voir le territoire transfrontalier. Et là, à mon avis, il faut voir le territoire à l'intérieur aussi de chaque pays et répondre par rapport à chaque situation régionale. Après, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs beaucoup plus matériels. L'Allemagne est le pays qui a le plus, par rapport à la France, beaucoup plus de capacités en soins intensifs. Donc, ça permet de mieux s'occuper des patients. Mais il y a des lits qui restent vides en Allemagne, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Alsace. Là, ils étaient très, très débordés. Donc, je pense que il y a tout un ensemble de facteurs. Ce que je voulais quand même dire, parce que ça, je l'ai entendu hier et ça me paraît quand même aussi important. L'Allemagne est très hésitante à utiliser une manière très autoritaire pour répondre à la crise à cause de son passé historique. C'est-à-dire, chaque fois qu'un état d'urgence pour l'Allemagne, c'est quelque chose qui historiquement pose problème pour les Allemands. Donc, les Allemands vont beaucoup plus discuter et mettre en place des structures qui réfléchissent. Par exemple, ils ont mis en place un conseil éthique qui va maintenant réfléchir et qui réfléchit aux mesures, qu'est-ce qui est compatible avec l'éthique. Ils mettent des spécialistes dans ces groupes de travail et qui vont conseiller ensuite la politique. Et je pense que ça permet mieux de réfléchir avant d'agir pour les responsables politiques. La France n'a pas cette approche parce que la France a un autre passé, elle est très centralisée. Et tout ça me fait penser que l'Allemagne a peut-être un petit avantage. Mais il faut être très prudent parce que le virus peut demain créer un cluster en Allemagne, et l'Allemagne peut aussi être touchée comme l'Alsace, parce que c'était vraiment la malchance en Alsace, par un événement qui fait que le virus se propage et où il y a après des problèmes sanitaires. Donc là, je suis très prudente parce que je ne suis pas non plus spécialiste de ces questions médicales, et il ne faut pas donner l'impression que l'Allemagne fait tout mieux que la France.
Donc maintenant, la plupart des États européens passent à la période de déconfinement. Pensez-vous que la gestion de cette crise laissera des traces, c'est-à-dire laissera des traces négatives, ou à l'inverse, va peut-être laisser des traces positives, où on montrera qu'il faut travailler différemment, notamment aussi dans la coopération transfrontalière et en matière plus générale au niveau européen?
Alors, ce qu'on peut tout de suite déjà constater, c'est que il y a dans cette crise deux échelons de gouvernance qui ont vraiment montré des déficits. C'est l'échelon régional, on en a déjà parlé, mais il y a aussi l'échelon européen. Là aussi, il y a un problème de compétences. L'Union européenne a été très très peu présente dans cette crise, parce qu'elle n'a pas eu, des compétences pour pouvoir réagir. Et donc, ces deux niveaux-là ont été handicapés. Et donc, moi, je dirais qu'à l'avenir, il faut s'en rendre compte et il faudrait sans doute réagir. C'est-à-dire au niveau transfrontalier, il faut trouver des nouvelles méthodes de travail pour répondre dans ce type de crise. Et au niveau européen, il se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas transférer des compétences dans la gestion de crise comme celle-ci à l'Union européenne? Ça, on le verrait que par la suite. Je suis toutefois malheureusement un tout petit peu pessimiste, parce que quand on voit les régimes dans l'Union européenne qui virent un petit peu vers l'autoritarisme, c'est-à-dire comme la Pologne et la Hongrie, je ne pense pas qu'ils sont prêts à abandonner les compétences au profit de l'Union européenne. Mais ce sera vraiment nécessaire pour pouvoir agir ensemble. Il est peut-être trop tôt aussi de dire que ce qui va se passer après le déconfinement, parce que le déconfinement, il se passe aussi de manière très très différente par rapport à chaque État, même à l'intérieur de chaque État, comme l'Allemagne, par rapport à chaque land. Donc il faut un petit peu voir, une fois qu'on a une sorte de normalité qui s'est rétablie, je pense qu'il va falloir prendre conscience de tout ce qui s'est passé, l'analyser, et voir comment on peut trouver à l'avenir des mécanismes de réponse à la crise qui peuvent peut-être pas seulement être pour une crise sanitaire, mais aussi pour des crises comme la crise migratoire, comme la crise de terrorisme. Ces crises qui montrent chaque fois que l'Union européenne manque beaucoup encore d'outils pour pouvoir répondre efficacement, et au niveau régional, c'est pareil. Mais je suis confiante qu'il y aura des solutions de proposer. Une note d'optimisme, c'est que vous savez que par le traité d'Aix-en-Chapelle, le traité révisé, ils ont instauré des nouvelles structures au niveau binational.
Donc, l'Assemblée franco-allemande, oui.
Ouais, c'est l'Assemblée franco-allemande. Et la proposition, par exemple, de faciliter pour les couples qui sont coupés par la frontière, hein, dans les territoires transfrontaliers, la facilité de la traversée de la frontière, ça vient de cette assemblée, cette nouvelle assemblée qui vient de se constituer. Donc, parce que dans cette assemblée-là, parce que ces structures, les nouvelles structures, vous pouvez le vérifier dans les articles du traité, on a créé des liens, on a créé des représentations, des observateurs des territoires transfrontaliers. Et là, je pense que ça montre... C'est la possibilité de lier le niveau national avec le niveau régional. Et ça montre déjà une conséquence positive. Et je pense que là, à l'avenir, on pourra trouver peut-être encore plus de possibilités de réponse à la crise, parce qu'il y a un lien entre à la fois le national, le régional. Ensuite, il faudra trouver ce lien-là au niveau européen. Là, je mise beaucoup sur le comité de région. Je l'ai examiné récemment, je fais une étude sur le comité de région. Là, de le comité de région, au niveau européen, crée le lien avec le niveau avec les instances de gouvernance au niveau de l'Union européenne à Bruxelles.
On peut rappeler que c'est donc un organe consultatif, hein, qui représente les régions auprès de l'Union européenne. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, je les renvoie à votre article, La Frontière, votre article co-rédigé avec deux autres enseignants de l'université, La Frontière franco-allemande au temps du Covid-19, la fin d'un espace commun, voilà, que l'on peut retrouver donc sur le web dans theconversation.com. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.